Chapitre suivant. La fronde des Lazaristes à Rome. Ils missionnent en Italie, en Pologne, à Madagascar, en Afrique du Nord. La plupart des provinces du Nord et de l'Est de la France bénéficièrent du génie charitable de Vincent. Mais à partir de 1648, ce fut surtout la région parisienne qui, subissant les conséquences de la guerre civile, fit appel à lui. On appelait cette guerre civile la Fronde. Elle était surtout menée par les princes et le Parlement, jaloux de Mazarin. Mais c'était toujours le peuple qui était la première victime des disputes des grands. Comme Mazarin, réfugié à Saint-Germain-en-Laye, essayait de réduire Paris par la famine, M. Vincent n'hésita pas à se rendre à la cour, malgré le danger d'être arrêté en route. Il put passer les lignes à Clichy, grâce à ses anciens paroissiens, qui le reconnurent et lui vinrent en aide. Parvenu auprès de la reine, il obtint d'elle que du pain puisse arriver à la capitale, et peu après, grâce en partie à son intervention, une paix fut signée à Rueil. Mais cette paix ne fut que provisoire, car Mazarin, ayant persuadé la reine que Condé voulait détrôner le jeune roi et prendre le pouvoir à sa place, obtint la permission d'arrêter le prince et ses amis. La guerre civile recommença. Pris de peur, Mazarin s'enfuit. Condé revient à Paris. La grande mademoiselle, la duchesse de Montpensier, fille de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, fait tirer le canon de la Bastille sur les troupes de Turenne et ouvre les portes de Paris à Condé. La foule affolée incendie l'hôtel de ville, massacre au hasard. C'est à nouveau le désordre et la famine. Vincent transforme Saint-Lazare en asile pour les réfugiés de la banlieue et en magasin de vivres pour les affamés de la capitale. Mais bientôt, les vivres vont manquer et ce sera la catastrophe définitive si la guerre civile ne s'arrête pas. Seul le jeune roi, qui vient d'être déclaré majeur, pourrait ramener la paix. Il faudrait qu'il renvoie Mazarin. Avec son courage et sa foi, mais surtout avec son immense amour pour le pauvre peuple, victime des disputes des grands, M. Vincent n'hésite pas à écrire fermement sa pensée à Mazarin et à la reine. La reine comprend l'intérêt du royaume. Mazarin, en colère, s'incline et laisse le roi rentrer tout seul à Paris, où il est acclamé avec enthousiasme par les Parisiens. La paix est revenue. Paris est sauvé. Vincent, tout en aimant profondément la France, ne limitait pas à son pays ses préoccupations. En vrai fils de l'Église, il établit à Rome même, au centre de la chrétienté, une maison des prêtres de la mission. Le pape encouragea les missionnaires français à prêcher, comme à Paris, des retraites préparatoires aux ordinations. Les évêques italiens demandèrent aussi aux lazaristes de donner, à travers la campagne, des missions à la française. À ce moment-là, en Italie comme en Corse, beaucoup de familles rivales étaient dominées par l'esprit de vengeance. Aussi, chacun portait sur soi des armes, même pour aller à l'église, et l'on n'hésitait pas à s'en servir à l'occasion. Les missionnaires français s'appliquèrent à faire cesser de telles habitudes. Rien n'était plus émouvant que de voir tous les habitants d'un village déposer leurs armes dans la chair du prédicateur et renoncer à leur vengeance. Les lazaristes venaient de commencer une mission dans la ville de Gênes quand une épidémie se déclara. C'était la peste, maladie d'autant plus contagieuse que l'hygiène à cette époque était assez rudimentaire. Les prédicateurs arrêtèrent leur sermon. Ils se mirent à soigner les malades et à ensevelir les morts. Plusieurs d'entre eux moururent, victimes de leur courage héroïque. Leur exemple fit plus que des discours ou des victoires militaires pour faire aimer la France. Une des premières dames de la charité avait épousé en 1645 le roi de Pologne. Elle s'appelait Marie de Gonzague. À peine arrivée à Varsovie, elle demanda à Vincent de lui envoyer des lazaristes et des filles de la charité. M. Vincent lui envoya celui qu'il appelait son bras droit, le père Lambert. Pendant un an, celui-ci organisa, comme M. Vincent l'avait fait en France, des missions et des confréries de charité. Mais voici que la peste s'abattit aussi sur la Pologne. Les malades étaient abandonnés chez eux, et personne ne se risquait à les soigner. Les cadavres restaient sans sépulture, dévorés par les chiens et les loups. Les biens importants périssaient de faim. Le père Lambert, en quelques jours, organisa la vie de la cité. Les morts furent ensevelis, les malades soignés, les vivres distribués régulièrement. Mais la tâche était écrasante. Le père Lambert mourut d'épuisement, ainsi que 19 filles de la charité sur 20. qui était venu de France. À la demande suppliante de la reine, Vincent envoya d'autres prêtres de la mission, cette fois-ci avec des visitandines. Les voyageurs s'embarquèrent à Dieppe, mais à peine sortis du port, ils furent saisis par des corsaires anglais et emmenés à Douvres. On réussit à les faire libérer et par voie de terre, ils arrivèrent en Pologne. De nouvelles filles de la charité vinrent bientôt les rejoindre. Malheureusement, la guerre vint encore ensanglanter ce pauvre pays martyr. Les Suédois, puis les Moscovites, ravagèrent villes et campagnes. Toutes les maisons des filles de la charité furent détruites. Mais leur héroïsme laissa un tel souvenir que, malgré l'éloignement, la France et la Pologne devinrent pour toujours des nations amies. Un jour, la Société des Indes, qui avait le monopole du commerce avec Madagascar, demanda des missionnaires à M. Vincent. Les voyages étaient alors plus dangereux qu'aujourd'hui, mais, disait M. Vincent en acceptant ce que les commerçants n'hésitent pas à faire pour gagner de l'argent, les missionnaires doivent le faire pour gagner des âmes. Madagascar, qu'on appelait à cette époque l'île Saint-Laurent, était encore assez mal connue. Des jésuites portugais avaient essayé de l'évangéliser. Malheureusement, ils étaient accompagnés de soldats et de négociants qui traitaient les indigènes comme des esclaves. Les missionnaires n'obtinrent aucun résultat. Découragés, ils repartirent pour le Portugal. Vincent envoya deux lazaristes, Gondré et Nacquart, en leur recommandant d'agir avant tout avec bonté. Après quelques semaines, M. Gondré fut atteint par la fièvre et mourut. M. Nacquart dut rester seul. Loin de se décourager, il apprit très vite le langage malgache, si bien qu'au bout d'un an, il pouvait rédiger un catéchisme dans la langue du pays. Il sut surtout gagner les cœurs par sa parole ardente que tous comprenaient. Les Malgaches étaient doux et intelligents. Ayant senti qu'ils étaient animés pour eux-mêmes, qu'ils étaient aimés pour eux-mêmes, ils firent confiance aux missionnaires français. Le roi, Ramaka, lui-même le reçut dans sa capitale de Payotte à quelques lieues de Fort Dauphin. Plusieurs indigènes demandaient le baptême. M. Nacquart supplia M. Vincent d'envoyer de l'aide. Il réclamait des frères architectes, médecins, tailleurs, maîtres d'école et surtout des filles de la charité pour s'occuper des malades, des femmes et des enfants. En 1654, arrivèrent M. Bourdaise et deux prêtres de la mission pour l'aider. Hélas, plusieurs années s'étaient écoulées. M. Nacquart était mort et les nouveaux chrétiens, trop vite abandonnés, n'avaient pas persévéré. Bourdaise se mit à la besogne sans tarder. Comme il était en même temps très habile médecin et même chirurgien, beaucoup de malades venaient à lui. Les missionnaires allaient de village en village, mais cette fois-ci ne donnèrent le baptême qu'après une longue période de catéchisme. Les épreuves s'abattirent à nouveau sur la mission. Le bon Dieu n'aime pas que le bien se fasse facilement. C'est par le sacrifice qu'on bâtit une chrétienté. Les compagnons de M. Bourdaise moururent l'un après l'autre, victimes des fièvres. La chapelle qu'ils avaient construite disparut dans un incendie. Bourdaise, au lieu de se décourager, eut une idée merveilleuse. Il envoya à M. Vincent par le prochain bateau quatre petits malgaches qui furent élevés à Saint-Lazare pour devenir plus tard les prêtres de leur île. M. Vincent les reçut avec joie et les prépara lui-même au sacerdoce. M. Bourdaise succomba bientôt lui aussi à la tâche, mais l'œuvre commencée ne devait plus être abandonnée. Malgré les maladies et les persécutions, les missionnaires se répandirent dans toute l'île. Les conversions se multiplièrent. Une nouvelle terre était conquise au Christ. C'est aujourd'hui une des chrétientés les plus florissantes. Elle compte 15 diocèses. L'archevêque de Tananarive et plusieurs évêques sont des malgaches. Il y avait une région d'Afrique à laquelle pensait souvent M. Vincent. C'était celle où il avait tant souffert lorsque, dans sa jeunesse, il avait été capturé par les corsaires. Mais il n'était pas facile d'y pénétrer. Toute l'Afrique du Nord appartenait au sultan de Constantinople. Seuls les consuls de France, résidents à Tunis et à Alger, y représentaient les intérêts des États chrétiens. Les beys d'Alger et de Tunis n'en faisaient qu'à leur tête. Leurs navires sillonnaient la Méditerranée et donnaient la chasse aux bateaux marchands. Leurs captifs étaient vendus en place publique comme esclaves. Vincent en avait fait l'expérience. Ils étaient achetés comme des bestiaux au marché et les acheteurs, après les avoir payés, pouvaient faire d'eux ce qu'ils voulaient. Le seul moyen d'échapper à l'esclavage était de se faire musulman. Le roi de France protestait de temps en temps contre ces violences contraires aux traités. On faisait semblant de donner satisfaction. On accueillait avec respect les envoyés extraordinaires chargés de libérer les captifs, mais on s'arrangeait pour les leur cacher, et tout recommençait comme auparavant. Louis XIII, en parlant un jour avec Vincent, lui demanda s'il ne serait pas possible d'envoyer des missionnaires aux captifs de Barbarie. On estimait qu'ils étaient plus de 30 000. Il fallait se faire agréer des beys d'abord. Le traité autorisait les consuls à avoir des prêtres pour le service religieux de leur maison. C'est sous ce titre d'aumônier de consulat que messieurs Guérin et J. Le Vacher furent envoyés par Vincent à Tunis. Ils réussirent, à force de diplomatie, à visiter les captifs dans leur prison et même à organiser des chapelles de bagne. En 1647, Tunis fut ravagée par la peste. Les deux lazaristes héroïques de dévouement forcèrent l'admiration des Turcs. Monsieur Guérin et le consul périrent. Jean Le Vacher dut s'occuper seul du consulat. Mais le danger passé, le bey de Tunis, sous un prétexte quelconque, l'obligea à quitter le pays. Tout était à recommencer.